Oui, alors on parlait de cette difficulté, voilà, je pensais c'était Emmanuel Rosenthal qui évoquait par exemple le hautbois au début de la partition qui a un sol
extrêmement haut,
extrêmement élevé, haut, ouais. pas facile à produire pour
non,
le musicien.
Non, pas du tout, pour les musiciens au départ, ça devrait être un choc. Mais c'est pareil par exemple avec Stravinsky, le début du Sacre du Printemps, la première note du basson, c'est une note qui... que les bassonistes à l'époque n'ont pas pensé qu'ils pourraient faire sortir de leurs instruments.
Maintenant,
c'est quelque chose qu'on fait au conservatoire sans problème.
Mais j'imagine qu'il y a une évolution de la technique des instrumentistes, mais aussi des instruments qui ont
évolué. Oui, c'est ça. Les instruments sont évolués aussi, mais il y a toujours... d'abord, la recherche avec les musiciens de trouver des nouvelles possibilités, des nouveaux registres et tout ça. Alors, et vous voyez ici, par exemple, je crois que dans les flûtes, par exemple, juste les flûtes, dans Dasnys, il y en a quatre. Il y a le piccolo, il y a deux flûtes normales, et puis une flûte à sol, donc une flûte plus grave, plus disons, vers le basse. Alors ce pupitre de quatre instruments, ça donne un quatuor déjà complet. Et c'est pareil pour toutes les familles là, à l'intérieur de l'orchestre. Ils cherchent toujours à aller dans tous les sens, d'élargir les possibilités.
Alors, vous parlez aussi de disposition de l'orchestre. Question, alors là, on est plutôt sur la question de la direction que de l'œuvre en particulier. On remarque, quand on est spectateur, à un moment, il y a les dispositions d'orchestre classique, et puis de temps en temps, il y a des pupitres qui se déplacent, qui migrent dans la salle. C'est une décision du chef, ou c'est une recommandation du compositeur? C'est lié au contenu de la pièce, à la configuration de la salle?
Le tout. Parfois, c'est le compositeur qui demande, par exemple, une trompette en coulisses ou au fond de la salle. Alors, c'est marqué dans la partition. Parfois, surtout dans la musique moderne, il y a très souvent une implantation qui est exigée par le compositeur. Il dit il faut mettre les instruments dans une telle position. Et c'est parce qu'il pense aussi... disons, un peu comme un architecte, en son, il faut entendre le corps de côté droite, des violons de gauche, ou des choses comme ça. Et vous voyez aussi, quand j'ai fait du Mahler, par exemple, les symphonies de Mahler, j'insiste sur la position dont l'orchestre a eu au temps de Mahler, avec les premiers violons sur un côté, les seconds violons sur l'autre côté, pour avoir ce contrepoint qui était certainement voulu par Mahler, que le son se jette d'un côté à l'autre.
Et donc les altos, les violoncelles sont au centre.
On les met différemment.
Alto, c'est normal, mais le violoncelle, c'est inhabituel.
Non, mais exactement. Voilà, mais c'est avec presque tous les grands compositeurs, ils ont pensé géographiquement aussi quand ils ont écrit. C'est pas juste les notes, mais aussi comment est-ce que ça va sonner dans l'espace.
Et alors, et votre place après en tant que chef et qu'interprète, je me disais, vous faites parler de Mahler, et je me rappelle avoir écouté, dirigée par vous, la troisième symphonie de Mahler, et avoir remarqué tout d'un coup une phrase musicale qui était jouée dans un Silsklezmer que je n'avais jamais remarqué auparavant.
Ouais, mais c'est ça.
Alors je me suis dit, est-ce que c'est vous qui avez fait demander aux musiciens de jouer cette phrase façon Klezmer, ou est-ce que c'était une indication de la partition de Mahler, pas très souvent respectée?
Oh, mais il n'écrit pas Klezmer, mais c'est vrai que c'est évident que la musique populaire juive à l'époque fait partie intégrale de tout ce qui était dans le monde musical de Mahler. Donc, j'essaye de faire sortir ça. Le côté folklorique, la musique populaire, c'est ça qui a fait... c'est une des choses qui a fait beaucoup de problèmes pour la musique de Mahler au départ, parce qu'on l'a dit, mais c'est la musique populaire, c'est quoi ça? Mais on n'a pas compris pourquoi il rajoute cette musique.
Oui, beaucoup de critiques parlaient de vulgarité même.
Oui, c'est ça. Il a dû attendre jusqu'à 1960, avec Bernstein, avec Kubelik, et les gens comme ça, qui a insisté sur sa musique, ses grandes, grandes qualités. Et là, dans les années 60... on était prêt pour la musique de Mahler.
Alors, au même concert, il y aura une œuvre contemporaine, on va dire, d'une compositrice qui, elle, est bien vivante, qui n'est pas toute jeune.
Non, non, elle a 94 ans. 94 ans, elle a écrit l'œuvre il y a une vingtaine d'années. Elle s'appelle Thea Musgrave, c'est une compositrice écossaise qui vit maintenant en Amérique, qui a écrit une très, très, très belle œuvre basée sur les tableaux et les aquarelles de Turner, le grand peintre anglais du 19e siècle, impressionniste avant les impressionnistes. Et elle a vraiment pu trouver les couleurs de ces grands coloristes peintres Turner dans sa musique. Si mouvement... chaque mouvement a son propre soliste. D'abord le tuba qui joue debout. Ensuite il y a le hautbois qui joue debout. Alors on a cet aspect théâtral aussi qui est dedans. Mais elle est une très très grande compositrice et aussi quelqu'un qui sait travailler avec les couleurs de l'orchestre. C'est pour ça que j'ai mis les deux œuvres une après l'autre pour montrer comment on peut peindre en musique.
Peindre en musique, l'image est belle. Bon, il y avait les tableaux d'une exposition.
Exactement,
déjà, mais...
voilà.
Mais oui, beaucoup de musiciens s'inspirent aussi des couleurs.
Et,
même citer dans des démarches extrémistes un Scriabine,
qui a travaillé de ça, mais c'est bien connu qu'il y a beaucoup de gens qui voient les couleurs à travers de la musique.
Oui, et puis quand on parle de l'orchestration de Ravel, on dit que c'est un coloriste extraordinaire.
Oui, c'est ça. Hein,
voilà. Alors, merci pour tous ces détails sur le concert à venir. Juste un petit mot. Vous allez avoir 70 ans, c'est pas un secret, cette année. Ça va être la fin de votre... contrat avec l'orchestre de Montpellier, ouais. Mais la carrière d'un chef, ça dure longtemps, et Barbara Blomstedt nous en donne un exemple.
Exactement,
brillant, à plus de 90 ans, elle continue à diriger.
Ouais.
Alors quels sont vos projets pour l'après-Montpellier?
Ouais, mais d'abord je reviens deux fois l'année prochaine ici à Montpellier, parce que Montpellier a pris une place énorme, très profonde dans mon cœur. Mais après ça, je continue à travailler au travers de l'Europe. J'ai 4 orchestres où je viens, arrive très régulièrement, mais pas comme chef principal, parce que je trouve... c'est quand même, avec mes 70 ans, je pense que c'est le temps de laisser la place aux autres. Mm-hmm. Moi, je vais travailler avec les musiciens et avec le public où je me sens bien. Alors, donc, c'est Bruxelles, c'est en Allemagne, c'est au Danemark, c'est ici en France, dans la République tchèque. Alors, des orchestres où je viens régulièrement pour travailler. Alors, je ne peux pas m'arrêter à diriger, mais c'est quand même, je crois, c'est ici Montpellier, ça sera mon dernier poste comme chef principal.
Eh bien, merci Michael Chevan pour cet hommage aux musiciens de l'orchestre de Montpellier, d'une certaine façon, et au public montpellierain aussi.
Oui, c'est ça, je trouve une forte liaison entre le public, l'orchestre et moi ici. Alors c'est quelque chose qui est assez unique dans ma vie.
Voilà, et je pense que si Montpellier vous a marqué, vous avez marqué le public de Montpellier aussi.
J'espère.
Bon. Voilà. Merci beaucoup, Michael Schoenwand. Donc, j'encourage nos auditeurs à venir découvrir une partition connue et en même temps pas assez connue, peut-être, qui est Daphnis et Chloé de Ravel. Et puis, Thea Musgrave aussi, à découvrir, une autre coloriste anglaise.
Ouais.
Et puis, on se retrouvera pour le Requiem de Verdi dans quelques mois.
Oui, c'est ça, au mois de mai.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.